Est-ce que vous saviez que notre système financier tout entier repose sur un langage informatique vieux de 70 ans, le COBOL, et les derniers développeurs qui le maîtrisent sont en train de partir à la retraite? C'est l'ensemble de nos banques, nos assurances, nos caisses de retraite qui pourraient se retrouver paralysées. La situation, elle est tellement critique qu'il y a certaines entreprises qui en sont réduites à embaucher des développeurs de 60 ans en CDI. Pourquoi ? Parce que personne d'autre ne sait maintenir ces systèmes vitaux pour notre économie. Notre invité est l'un des rares jeunes experts en COBOL. Il va nous expliquer comment on en est arrivé là, pourquoi personne n'a jamais réussi à remplacer ce dinosaure de l'informatique et surtout pourquoi certains développeurs pourraient aujourd'hui gagner une fortune en maîtrisant ce langage que plus personne ne veut apprendre. Mais juste avant, j'ai un petit message pour tous ceux qui s'intéressent à l'automatisation. Vous savez, ça me passionne et ma solution préférée pour ça, c'est N8N. Pour ceux qui ne connaissent pas N8N, c'est un peu comme Zapier, mais en open source. Vous pouvez automatiser n'importe quoi. Envoyer des mails, LLM, support client. Vous pouvez même combiner ça avec des agents, genre DeepSeek maintenant. Et justement, notre partenaire Hostinger est le premier hébergeur à proposer N8N de préinstaller sur leur VPS. Je vous conseille pour ça le KVM2 avec deux cœurs vCPU AMD EPYC, 8Go de RAM et 100Go de NVMe. Pour 6,99€ par mois sur 12 mois, c'est absolument imbattable. Et avec le code underscore, vous aurez même une petite réduction supplémentaire. Je vous laisse ça avec aussi une vidéo d'initiation à N8N avec tous mes conseils que je vous ai fait. Et on reprend. Ça vient d'où le COBOL et pourquoi ça a été créé?
C'est l'armée, si tu veux, qui a vraiment demandé de créer un espèce de langage qui serait commun pour toutes les armées américaines. Et du coup, eux, ils voulaient pouvoir vérifier le code, mais que ce soit des lieutenants qui puissent auditer le code. Et du coup, ils se sont dit, on veut du code qui soit lisible. Il y a Grace Hopper, une militaire américaine, qui avait créé justement un code qui s'écrivait, mais vraiment comme tu parlais, quoi. Genre, au lieu de dire X égale X plus 1, ce que tout le monde ferait aujourd'hui dans tous les langages, là, c'est move 1 to X ou add 1 to X, c'est pour ajouter 1 à X, quoi. C'est un langage qui est écrit en langage naturel. Il y a, je crois, 3000 mots-clés en COBOL contre 100 en Java, par exemple, tu vois. Un mot-clé, c'est un mot que tu vas utiliser dans ta phrase. Le if, par exemple, zen, c'est un mot-clé. Et en COBOL, t'en as plein. Même zéro, c'est un mot-clé. Zero. Le zéro sans le E, le zéro avec le E, le zéro avec un S, tout ça, c'est des mots-clés.
L'intention d'origine, en tout cas, c'est que tu puisses écrire à peu près comme tu veux. C'est ça. Normalement, ça passe, quoi.
Exactement. T'écris en langage naturel et ça t'exécute le code. Le langage, il est né comme ça en 59.
Et du coup, c'était pour qui? Pour faire
donc,
quoi, à la base?
Au départ, c'était pour l'armée américaine, pour qu'ils puissent synchroniser un peu toutes leurs armées, etc. Que chacun fasse pas un peu son bout de code dans le coin, etc. Mais très rapidement, les banques et tout ça, ils s'en sont emparés. Surtout que ce langage avait quand même un atout, c'est qu'il est super performant sur les calculs en virgule fixe. Ce qui aujourd'hui paraît un peu aberrant. Aujourd'hui, on utilise tous des floats, des floating points, enfin des virgules flottantes. Mais en fait, à l'époque, on trouvait ça plus pratique de faire des virgules fixes. Et du coup, même aujourd'hui, c'est ultra performant pour faire des calculs en virgule fixe. Et du coup, pour les banques, etc., qui doivent faire des calculs de sous, où tu as toujours deux chiffres après la virgule, c'est super pratique.
Et surtout, c'est quoi avant pour savoir? C'est-à-dire, c'est qui s'empare du langage à cette époque-là? Parce que c'est dur de se figurer là maintenant à quoi ressemblent les années 60 en informatique, tu vois.
Il y avait des petites boîtes à l'époque, genre IBM, etc., qui du coup voient ce langage arriver, pondu par l'armée, et qui se disent, très bien, nous, on pourrait utiliser ça pour faire des systèmes informatiques. Et du coup, ils ont développé un système d'exploitation, le ZOS, qui aujourd'hui est encore utilisé. Donc, un programme de 1960, il marche encore aujourd'hui. Et ensuite, en fait, ils se sont dit, on va mettre des grosses machines, une grosse machine, un truc vraiment de bourrin, avec plein de bandes magnétiques pour sauvegarder, etc. Et tous les développeurs, tous ceux qui vont devoir développer, donc soit au début, c'était avec des cartes perforées, et ensuite, c'était avec des terminaux.
C'est-à-dire que la manière dont tu programmes, au début, c'est pas avec un clavier?
Ah non, oui. Alors, ouais.
Bah oui.
Non, c'est vrai que le clavier, souris, etc., c'est arrivé avec les Mac, donc bien après. Donc vraiment, à l'époque, il y avait à peine des moniteurs, quoi. Hein. Pour reprendre un peu toute la chaîne, en gros, il y avait un ingénieur. Il avait une fiche où il notait, en fait, son code. Il fallait bien qu'il respecte les colonnes sur lesquelles il tapait chaque lettre, en fait, où il écrivait chaque lettre. Donc il y avait 80 colonnes, comme ça, sur une carte perforée. Donc lui, il avait maximum 80 caractères pour écrire une ligne. Donc il écrivait son code, etc. Ensuite, il envoyait ça aux perforatrices. Donc c'était des dames qui s'occupaient, en fait, de transformer toutes ces lettres en trous dans les cartes à trous. Donc tu vois, t'as les 80 colonnes là, donc si tu regardes encore du COBOL aujourd'hui, t'as toujours les 80 colonnes, hein, ça n'a pas changé. Et donc tu vois ici, t'as 10 lignes, et du coup c'est un code en EBCDIC, hein, c'était l'ancêtre de l'ASCII en fait. Donc chaque colonne ici, ça va être une lettre. Donc là, ça te fait une ligne de code.
Ah oui, donc c'est-à-dire que ça c'est la version encodée de chaque lettre.
Voilà.
Bon, t'as mentionné le BCDIC, mais en gros c'est une manière de décrire des lettres.
C'est ça.
Avec des nombres, tout simplement. Ce que faisaient ces dames-là...
Les trous, c'est un trou, c'est un 0, et quand il n'y a pas un trou, c'est un 1, ou inversement. Quoi, tu vois.
Et donc, ça veut dire que ces personnes connaissaient par cœur l'encodage EBCDIC ?
Alors, je pense qu'au début, effectivement, elles connaissaient par cœur, mais très rapidement, il y a des espèces de machines à écrire, mais gigantesques. Hein. Tu tapais une lettre et plac, ça te faisait les trous, là, comme ça.
Ah oui, avec le bon encodage sur la carte, ok.
Exactement. Donc, tu avais les perforatrices, après, tu avais les perfo-vérificatrices qui vérifiaient que c'était bon. Ensuite, il fallait rentrer les cartes comme ça dans la machine. Et ça mettait, je ne sais pas, une nuit entière pour compiler un programme, quoi. Donc, t'imagines, hein, une carte, c'est une ligne hein, de code. Donc, si tu avais 2000 lignes de code, tu as 2000 cartes. Hein. Donc, ça faisait des boîtes comme ça. Donc, t'imagines bien que s'il y avait une erreur, tu le voyais le lendemain. Erreur de compile parce que t'as un trou qui était pas au bon endroit.
Ah ouais. Donc c'est-à-dire que toi, ingé, tu écris ton programme, tu dois attendre 24 heures pour savoir s'il y a un problème, quoi.
C'est ça. Et alors, quand il y a un problème, du coup, t'auras un dump de la mémoire pour savoir où est ton problème. Et ça, c'était écrit sur des espèces, je sais pas si tu te rappelles, les vieilles imprimantes là, à aiguille, là, tu vois. Et donc, j'ai des collègues qui ont connu ça et ils me disaient il fallait apporter sur des chariots parce que t'avais des piles hautes comme ça, de dump. Donc, fallait trouver où était ton problème, quoi. Voilà.
Imagine, c'est là, t'as un crash dans ton programme. Genre, le seul moyen de lire ta mémoire, c'est dans une pile de papier.
Exactement.
C'est fascinant. Là, t'as parlé du fait que le développeur, au début, il utilise donc ses cartes perforées et qu'il y a un moment quand même où ça passe au moniteur.
Voilà.
Ça ressemble à quoi, du coup c'est quoi la première expérience de développer sur un moniteur? Qu'est-ce qui nous étonnerait, nous?
Bah, ce qui nous étonnerait, c'est que le moniteur, c'est juste un moniteur. Donc, bon, vous avez pas connu le Minitel, mais le Minitel, c'était un moniteur. C'est-à-dire que tu peux rien faire d'autre que de te connecter à la machine centrale. Et en fait, tout s'exécute sur la machine centrale. Toi, ton moniteur, c'est juste un clavier avec, à la rigueur, une puce qui gère l'affichage, et c'est tout. Il n'y a rien dedans.
Tu peux mettre du texte, tu vois ton code.
Voilà, c'est ça.
T'as pas de souris, j'imagine?
Non, il n'y a pas de souris, bien sûr.
Donc, c'est quoi l'expérience de dev, quoi? De ce que j'ai compris, par exemple, chaque ligne, elle avait un numéro, c'est ça, associé?
Oui, alors, chaque ligne a un numéro. Pareil, ça, c'était lié aux cartes perforées de l'époque, pour pas mélanger les cartes, parce que si tu faisais tomber... ce qui arrivait souvent, hein. Si tu faisais tomber ta pile de cartes, bah, vas-y, pour les remettre dans l'ordre. Donc, il y avait des numéros...
Oui, une anecdote, c'est que mon papa, il a développé sur des cartes perforées, mais c'était du Fortran.
Oui.
Et je sais que ma maman l'aidait à l'époque à justement faire les traductions. Et c'est trop flou pour que je le raconte exactement, mais j'ai des souvenirs d'anecdotes de piles de cartes qui tombent et qu'il faut réordonner. Et donc ça, je trouve ça absolument hilarant parce que c'était la vraie expérience de vrais gens, quoi, d'ordonner des piles de cartes perforées.
Mais ce qui est marrant, c'est que là, on en parle au passé, mais en fait, c'est toujours le cas. Il y a toujours ces identifiants.
En fait, on a gardé plein de choses de l'époque. Par exemple, aujourd'hui, quand on fait ce qu'on appelle un JCL, donc c'est quelque chose qui va lancer un job pendant la nuit, par exemple, ou à des heures fixes, il y a une première ligne qu'on appelle la carte job aujourd'hui. Encore aujourd'hui, tu parles à n'importe quel développeur COBOL, tu lui dis, il faut modifier la carte job. Et en fait, ça, c'était la première carte qui était d'une couleur différente, bleue, pour pouvoir reconnaître le début du code, pour l'insérer. Donc voilà, on a gardé encore tous ces trucs-là. On a gardé les 80 colonnes, on a gardé plein de choses de l'époque.
Tu n'es pas si perdu, quoi, si tu, si tu t'étais téléporté là-bas, quoi.
Exactement.
Et il y a un dernier point qui est hyper intéressant, c'est qu'IBM est un peu propriétaire, entre guillemets, du COBOL. Comment ça se fait?
Donc, il n'est pas propriétaire du COBOL en lui-même, mais il est propriétaire du ZOS. Donc, c'est en gros les machines mainframe. Donc, le COBOL, quelque part, tout le monde pourrait l'utiliser s'il voulait, hein, mais aujourd'hui, je pense que ça aurait assez peu d'intérêt si tu pars d'une architecture moderne, on va dire. Donc voilà, en fait, ils ont créé ce ZOS qui fonctionne sous COBOL. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire 99% du COBOL que tu fais, c'est sur les ZOS, les mainframes.
Tu as mentionné mainframe, c'est un truc que j'ai déjà entendu oui. régulièrement. Je sais que c'est une sorte d'ordinateur, mais c'est quoi exactement en fait ?
Donc à l'époque, c'était, on va dire, une grosse unité centrale avec un CPU qui gère tout. Et donc, tu avais des bandes magnétiques. Par exemple, je ne sais pas si tu voulais à l'époque récupérer ton programme qui était archivé. Eh ben, il fallait que... Alors, soit au tout début, c'était des gens qui devaient aller prendre les bobines, les mettre, clac. Donc, il fallait les appeler. « Ouais, je voudrais récupérer mon programme, machin. » Le mec, il fallait qu'il trouve la bobine qui avait ton programme, qu'il la mette. Après, c'était des bras robots. C'est à l'époque des cassettes. Donc, les bobines sont transformées en cassettes. Donc, tu as des bras robots qui allaient prendre la bonne cassette qu'il la mettait.
En fait, c'est marrant parce que c'est l'équivalent un peu de la tête de lecture sur un disque dur. C'est juste aller trouver la bonne donnée.
Exactement.
Donc là, c'est littéralement un bras robot qui...
Donc, quand ton programme, tu l'as pas touché depuis 2 semaines, qu'il est archivé, t'appuies, clac, t'attends 5 minutes.
Qu'il y ait le bras robot.
La cassette, les chercher, le charge le programme en mémoire. C'était vraiment gros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, un ZOS, c'est juste un rack.
Mais ce qui est fou, c'est déjà pour faire un programme COBOL, en fait, il faut une machine spécifique.
Oui, parce qu'en fait, les puces IBM, elles sont vraiment... c'est physique, un peu comme... comme Apple, quand ses puces sont vraiment fabriquées par rapport à leur hardware, etc. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que vraiment, les puces sont ultra optimisées pour faire certaines commandes, exécuter certaines commandes.
Si tu regardes la puce, des détails du langage apparaissent, en fait.
C'est ça, exactement. Avant, les entreprises avaient leur mainframe, mais maintenant, on loue. Et on loue au MIPS, millions d'instructions par seconde. Un MIPS, on va dire, c'est à peu près 1000 euros par an.
C'est beaucoup, non?
ouais. Oui, mais c'est pas un MIPS de C++, quoi, si tu veux. C'est un MIPS.
Des COBOL, donc c'est.
C'est premium. Ah, bah, attention!
Mais pour te donner un ordre d'idée, on va dire une banque moyenne, je sais pas, ça va être 5000 MIPS, par exemple. Donc c'est quand même 5 millions d'euros par an.
Ah ouais!
Eh oui!
Ouais.
Donc, tu n'auras jamais ça chez toi. Voilà.
Non, mais donc c'est une pelouse d'or, en fait.
En fait, moi, j'ai connu IBM quand ils faisaient des PC. Et très vite, ils ont arrêté parce qu'ils avaient des concurrents et puis, en fait, ça leur rapportait rien comparé à ce que leur rapporte le grand système.
Ce qui pose une question, évidemment, mais moi, je n'y connais rien, donc c'est intriguant, c'est qu'il y a beaucoup de langages qu'on voit apparaître et puis tomber dans l'oubli, des langages peut-être moins chers que ce que tu as décrit. Qu'est-ce qui fait que le COBOL, malgré ce qu'on vient de décrire, est toujours là, aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu nous raconter son évolution depuis les années 60 ?
Ouais.
Qui, j'imagine, explique un peu la situation actuelle, quoi.
Tout à fait. Donc, bon, il y a plein de raisons, mais déjà, il était performant. Donc, les banques et tout ça ont commencé à bâtir vraiment leur système dessus. Mais les banques, les assurances, les caisses de retraite, c'était vraiment des entreprises énormes, quoi. Et puis, au fur et à mesure des années, bah, il fallait rajouter des règles de gestion. La loi change tout le temps, donc voilà, on modifie à droite, à gauche, on rajoute des règles dans le code, etc. Et du coup, bah, au bout d'un moment, les premiers qui ont implémenté ça, bah, ils commençaient à partir en retraite. Du coup, on savait plus trop comment ça marchait, le système derrière. Et surtout, il y a eu ce problème de l'an 2000, parce que... dans les années 70, on se disait, bon, bah, de toute façon, on voyait des nouveaux langages arriver, on se disait, bah, de toute façon, le COBOL, ça n'existera plus après 2000. Donc, on code la date sur 2 chiffres pour économiser de la place. Parce que, à l'époque, 2 chiffres, c'était,
c'est pas rien.
C'était pas rien. Parce que, bah, si tu peux passer de 8 heures de compile à 7 heures de compile avec tes cartes à perforer, bon, bah, tu le fais, quoi. Et puis, les années 80 arrivent, les années 90, milieu des années 90, on se dit, mais ça craint, là.
Mais tu sais que j'avais jamais eu l'explication du bug de l'an 2000. Mais j'avais oublié que c'était vraiment juste une histoire de coder sur 2 chiffres.
Et ce qu'il faut voir, c'est, bah, tu vois, il y a pas longtemps, là, avec Microsoft et l'antivirus, je sais pas quoi, qui a fait planter Windows. Un truc comme ça se passerait sur le COBOL, le monde s'arrête, hein. Parce que c'est toutes les banques, les assurances, beaucoup d'industries. Je veux dire, ça serait pire. Donc, imagine la crainte À cette époque-là, avant l'an 2000, imagine si du jour au lendemain, plus personne n'a d'argent, toutes les usines s'arrêtent. Enfin, c'était vraiment flippant. Hein. Mais donc, dès milieu des années 90, fin des années 90, on s'est mis à recruter en masse. On recrutait n'importe qui. Enfin, n'importe qui, des gens intelligents. Mais moi, mes collègues aujourd'hui, c'est des astrophysiciens, des chimistes, tu vois, qui sont devenus un jour cobolistes parce que on avait besoin.
Entre autres, pour corriger les
futurs bugs de l'an 2000. Tous les bugs de l'an 2000. Donc vraiment, les entreprises, elles ont flippé, mais grave. Et donc, elles ont mis tout le monde pour inspecter chaque programme, etc. Vraiment, aller fouiller tout au fond.
Et au final,
il n'y a rien eu.
Rien.
Mais parce que on a mis des milliards sur la table pour corriger tout ça. Hein.
En fait, il n'y a rien eu parce que ça a été anticipé.
Ah, oui,
sinon,
oui.
Il y aurait eu.
Ah, sinon, ouais, 100%. Franchement, je t'assure, ça aurait été le chaos.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il paraît que le bug de l'an 2000 pourrait se reproduire en 2049.
Oui, parce que le timestamp, la date en COBOL, est codée sur 32 bits ou 64 bits, je ne sais plus, mais qui fait qu'elle repartira à zéro en 2049, à je ne sais plus quelle heure.
Voilà, ce qui est marrant, c'est-à-dire que les gens qui ont anticipé le bug de l'an 2000, ils se sont jamais dit qu'en 2049, on aurait encore du COBOL, en fait.
Ben non, on refait les mêmes erreurs parce qu'on se dit, ben non, en 2038, en 2040, il n'y en aura plus. Mais je mets ma main à couper qu'on
en 2038, il y a du COBOL qui existe encore. Surtout que là, même les services publics utilisent, enfin, en gros, ce qui fait tourner le pays, quoi.
Ouais, c'est ça. Dès que tu as une grosse infrastructure, de toute façon, souvent, derrière, t'as du COBOL, quoi.
Encore aujourd'hui?
Ah oui, encore aujourd'hui. Alors, pour te dire, j'ai bossé dans une caisse de retraite il y a 15 ans, où le projet, c'était de fusionner toutes les caisses de retraite. Donc, il fallait repartir de zéro, créer un logiciel commun à toutes les caisses de retraite qui va gérer les retraites des mineurs, les retraites, enfin, toutes les retraites qui existent. Eh ben, ils ont décidé de le faire en COBOL. Alors que, déjà, il y a 15 ans, on disait que le COBOL, c'est comme aujourd'hui, hein, on disait que c'était mort, voilà. Eh ben, ils ont quand même choisi de le faire en COBOL. Parce que tu pouvais faire du copier-coller de certains codes. Les développeurs qui maintenaient ces applications et qui connaissaient les règles de gestion, ben, ils faisaient du COBOL, etc. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux ou vertueux selon le point de vue. Mais ben, ça s'arrête jamais.
C'est quoi le scénario alternatif d'utiliser un autre langage, une autre infrastructure, peut-être plus récente, etc. C'est quoi le coût, en fait?
Ouais, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par-dessus, tu peux très bien calquer n'importe quelle interface. Donc, pour l'utilisateur, lambda, etc., il le voit pas, le COBOL. Pour lui, ça va être des belles interfaces en Java, en C#, etc. Parce qu'on peut rajouter une couche par-dessus. Donc déjà, peu importe que ce soit joli ou pas, on peut garder le COBOL. Ensuite, c'est des systèmes entiers, gigantesques. Pour changer ça, tu peux pas le faire en 5 minutes. Donc, il te faudrait, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 10 ans pour changer, migrer un système entier comme ça. Dans ce laps de temps, je sais pas, t'as un chef qui dit, bah non, là, cette année, on est un peu ric-rac. Sur quel budget on peut rogner? Bon, le COBOL, il tourne bien. Allez, c'est bon, on va pas dépenser 10 millions d'euros pour mettre autre chose à la place. En plus, il y a ce problème de performance. C'est super performant. Fais tourner des batchs en Java qui vont traiter des centaines de millions de lignes. Tes banques, tu vois, toi, quand tu fais ton virement, il te dit, votre virement sera effectué 24 heures après. Ça, c'est parce qu'ils font tourner des batchs COBOL derrière qui vont traiter tous les trucs. Et quand ils ont voulu faire le virement immédiat, là, tu vois, ils l'ont fait payer parce que, en fait, c'est super galère. Est-ce que faut mettre à jour les bases de données, mais il faut vérifier que ton virement il est correct, etc. Alors que tout ça, le COBOL, il le fait très bien la nuit, tranquillement, dans son batch, etc. Tu vois. On peut se dire, allez, si on remplace ça par du Java. Le Java, moi, depuis que je suis depuis 10 ans là, ils sont passés de Tomcat à WebSphere. Donc, ils ont dû tout remigrer leur application. Après, ils ont dû passer de WebSphere à Liberty. Donc là, faut tout remigrer encore. C'est des millions, des milliers ou des centaines de milliers d'euros d'investis juste pour les migrations. Ouais,
c'est des briques importantes pour de gestion d'interface ou de serveurs qui changent.
C'est ça.
Qui ont des gros impacts sur la manière dont on décrit les choses, quoi.
Exactement. Le COBOL, on n'a rien migré. Un programme de 1960, il marche encore. Et l'air de rien, c'est super avantageux, tu vois. On dit le COBOL, c'est obsolète. Mais non, en fait, c'est le Java qui devient super rapidement obsolète, tu vois. Parce qu'au bout de 5 ans, t'as, marrant, t'as des nouvelles librairies.
C'est hyper marrant comme phrase. J'ai entendu ça de ma vie.
Tu vois ce que je veux dire? C'est un langage stable. Je veux
en
dire,
tout cas, ça explique beaucoup des décisions qui peuvent avoir été prises.
C'est ça.
On a parlé de tous les aspects cool du COBOL, mais il y a quand même un problème qui commence à être vraiment très critique. C'est la pénurie de gens qui savent faire du COBOL, en fait.
Tout à fait.
Qui savent parler cette langue. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un ordre d'idée de l'état de cette situation-là?
Donc le problème, c'est, comme je disais, donc dans les années 90, on a recruté en masse. Donc, ils commencent à partir en retraite. Et ces gens-là, ils avaient acquis un savoir incroyable. C'est eux qui connaissent bien vraiment, qui sont experts vraiment dans ce langage. Parce que, OK, ça paraît un peu enfantin comme langage, mais il y a quand même pas mal de choses techniques à savoir dessus.
Surtout, il y a le langage en lui-même, il y a la syntaxe.
Ouais.
Mais j'imagine qu'il y a aussi la réalité des infrastructures, en fait, du hardware sur lequel ça tourne, de toutes les spécificités métiers. Fin...
Et puis, quand je te disais que le MIPS coûtait 1000 euros... T'imagines bien que optimiser son code, c'est quand même faire un gain d'argent monstrueux, quoi. Donc t'as des gens qui surveillent en fait tes requêtes, tes machins. Ah, ta requête, elle coûte un peu cher là. Tu pourrais pas revoir un peu tes jointures entre les tables, etc. Je veux dire, on en est à discuter de ça. Si tu peux changer un truc sur une requête, tu fais gagner, je sais pas, 1000 euros par an, tu vois.
Et à quel point on est dans une urgence, en fait, pour toi, te décrire ton cas, par exemple, t'es plutôt jeune, en fait.
Ouais.
Pour décrire le profil type du développeur COBOL, c'est pas toi, quand même.
Non. C'est l'avantage du COBOL, c'est que même à 40 ans, on peut t'appeler le petit jeune. Hein. Un profil type, c'est quelqu'un qui a entre 55 et 60 ans, qui est parti de développeur, puis qui est soit parti, on va dire, dans la partie technique, donc architecte, expert technique, etc., soit plutôt vers la partie fonctionnelle. Parce qu'il faut savoir que, comme c'est pas un langage de geek, mais là où tu vas t'éclater, c'est que tu dois coder des règles de gestion. Donc, faut discuter tout le temps avec les gestionnaires, avec les utilisateurs, etc. Et un développeur COBOL, il va devenir très rapidement calé en fonctionnel, voire même plus que les utilisateurs. Parce que les utilisateurs, au bout d'un moment, eux aussi partent en retraite.
Donc, pour donner un exemple, sur la caisse de retraite, le développeur COBOL, il finit par mieux savoir c'est quoi les lois, etc.
Exactement.
C'est hilarant.
Exactement, parce que le programme tourne, mais t'as tes chiffres qui sortent à la fin. Donc le gestionnaire, quelque part, il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe derrière. Mais le jour où son boss arrive et dit « Ah ouais, tiens, tu peux me changer la règle, je vais regarder dans mes docs, machin, mais ah non, il n'y a plus de doc. Bon, allô, développeur COBOL, tu peux regarder dans le programme comment c'est codé ?» Voilà. On fait énormément ça. On dépanne souvent les utilisateurs parce qu'on doit regarder dans le programme pour voir comment les règles sont codées. Donc, il y a beaucoup de développeurs COBOL qui peuvent passer côté fonctionnel.
Donc, c'est pas forcément un profil très geek, entre guillemets, par rapport à d'autres...
C'est clairement pas un profil geek. Effectivement, je suis un peu une exception là-dedans. Mais on s'éclate sur d'autres trucs, quoi.
Et à part donc cet aspect-là, il y a un peu des clichés sur tous les langages.
Ouais.
Des profils types, entre guillemets, qui se font des approximations, mais voilà. Il ressemble à quoi, le coboliste?
Ça va de la personne aigrie qui a fait ça depuis 30 ans et qui en a marre, à des gens passionnés par justement d'autres choses que le COBOL. Personne n'est passionné par le COBOL en lui-même.
Mais, ce qui est le cas sur d'autres langages.
Ouais, tout à fait.
Mais le COBOL, non.
Mais il y en a qui peuvent être passionnés par l'architecture, par exemple, tu vois, parce que le COBOL a tellement de liens avec plein de choses. C'est l'éclat total. Moi, je te montrerai des schémas d'architecture. Ça te prendrait tout ton panneau, là.
Mais est-ce que, par exemple, un développeur COBOL, il se dit peut-être, tiens, je vais apprendre le Python ou je vais développer dans un autre langage?
Ouais, ça arrive. C'est rare. C'est rare. Mais, ça, c'est les gens qui le font plutôt chez eux, on va dire. Par contre, ce qui est super important, c'est qu'il y en a qui se mettent au Java, par exemple, ou des javaïstes qui se mettent au COBOL. Et alors là, si t'as la double compétence, t'es le roi du pétrole, parce que tu connais en même temps l'interface et en même temps ce qui tourne derrière, quoi. Donc là, effectivement, c'est royal.
Petite question, mais est-ce que vu que c'est un vieux langage, du point de vue de la cybersécurité, il y a un plus grand risque?
C'est hyper sécurisé. Déjà, d'avoir, en gros, quasiment une seule puce, quoi, un seul endroit où tout est computé, déjà, ça permet de sécuriser. C'est pas comme si t'avais 15 serveurs à droite, à gauche, avec plein de backdoors possibles, etc. Là, t'as ton ZOS. Je peux te dire que les backdoors, elles sont... Tout est verrouillé, quoi. C'est ultra verrouillé. IBM, ça fait 50 ans, 60 ans, qui verrouille de plus en plus. À chaque fois qu'il y a le moindre petit problème, et ben il contrecarre le souci. C'est pas comme dans le web où c'est l'anarchie, tu vois. T'as 12 milliards de protocoles différents, machin. Tu pourrais rentrer.
Une surface d'attaque qui est immense.
Qui est immense.
Et surtout, il y a une bonne partie des vulnérabilités qui viennent de problèmes d'étanchéité, par exemple, où tu vas avoir différents logiciels ou différentes fonctionnalités qui coexistent, par exemple, au sein d'un même OS, au sein d'une même machine, où justement, on va s'échapper du bac à sable, de la sandbox du navigateur pour atteindre un autre endroit. Ici, c'est simple, ton mainframe, il fait tourner du COBOL, point barre, quoi, en fait.
Exactement.
Et donc, ça a déjà existé, des attaques, tu vois, des vulnérabilités dans le...
En fait, moi, de ce que j'ai entendu, c'est plutôt, en fait, de l'ingénierie sociale, quoi. C'est comme ça que tu peux attaquer. J'ai travaillé dans une banque, et il y a une histoire qui tournait beaucoup, qui s'était passée 3-4 ans avant que j'arrive. Où un gars s'était fait choper parce qu'il virait des arrondis de centimes, quoi, tu vois, parce que, justement, quand on multiplie les chiffres à virgule, des fois, t'as des millièmes de centimes.
Ils aiment bien un truc, cette histoire.
Ils sont pas comptabilisés.
Ça me dit grave un truc, cette histoire.
Il arrondissait des centimes sur son propre compte bancaire.
Ouais, c'est ça.
Et il s'est fait des millions comme ça, c'est ça.
Il y a une question qui va intéresser tout le monde, évidemment. C'est celle de l'argent. Moi, j'ai déjà entendu des théories, des fantasmes, comme quoi même t'as des développeurs COBOL, tellement c'est rare et tellement ça peut concerner des programmes critiques, qui peuvent être payés à la ligne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'as déjà vu ça? C'est peut-être une fake news.
Ouais, ça, je sais pas. J'ai jamais entendu parler, en tout cas.
T'es payé comment, en gros? C'est quoi les fourchettes quand t'es développeur COBOL? Tout ce qui est rare est cher, j'imagine.
Voilà. Alors, développeur COBOL, on va dire sur Paris, quand tu commences, c'était 40 000 euros, par exemple. Okay. Vraiment débutant, quoi. Surtout, je pense que tu peux monter plus vite en salaire. Okay. Si tu t'orientes vers l'expertise, un expert COBOL hyper calé, il peut gagner 110, 120, 120 000 euros par an.
C'est dur à faire quand même.
Ouais, c'est déjà pas mal. Après, bon voilà, faut pas rêver non plus. Les débutants, ils sont payés comme tous les autres développeurs informaticiens.
C'est particulier. Il y a un truc que j'ai entendu aussi, c'est que ça arrivait de recruter en CDI des gens qui avaient 60 ans.
Oui.
Ça n'existe nulle part, ça.
Ça t'est arrivé.
Oui, son âge exact, hein, pour ne pas le froisser, c'est 58. Alors, déjà, il est très compétent, mais on ne trouve plus vraiment d'experts comme ça. Enfin, c'est impossible. Si la RH va dire, on veut un jeune de 30 ans qui a de l'expérience en COBOL, machin, c'est impossible à trouver. Je te dis, comme on arrive en fin de pyramide des âges, c'est la majorité des personnes ont ces âges-là, en fait. Hein.
Toi, déjà, quand t'as commencé il y a 20 ans, on te déconseillait déjà d'y aller. Toi, là, aujourd'hui, éventuellement, pour des gens à qui ça piquerait la curiosité de se mettre au COBOL, est-ce que c'est un truc que tu conseillerais toujours ou pas?
Ouais, déjà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des énormes infrastructures COBOL qui existent aujourd'hui. Donc, même si là, aujourd'hui, on disait, allez, on migre tout, allez, tout le monde disait ça en même temps, ça prendrait au moins 10-15 ans. Donc déjà, t'es tranquille 10-15 ans, là, c'est sûr. En plus, clairement, tu seras une denrée rare, c'est sûr, sûr et certain. Hein. Tu regardes aujourd'hui, je vais regarder ces 5 à 10 000 cobolistes pour 200 000 javaïstes, hein, tu vois. Et en plus, moi, franchement, je dis, c'est l'ambiance est vraiment sympa. Et puis en plus, on peut toujours, si on est intéressé par autre chose, moi je m'intéresse à l'IA, touche à l'IA au travail, etc. Tu vois, c'est pas...
Comme ce que tu disais, c'est pas un choix qui détermine forcément l'ensemble de ta carrière. Tu vas être confronté à beaucoup d'autres langages en réalité.
Exactement.
Et il y a beaucoup de choses que tu apprends qui ne sont pas liées à la syntaxe en fait, mais qui sont liées au métier, qui seront tout aussi valables sur la prochaine techno. C'est dur à dire, moi je m'y attendais pas forcément, mais ça paraît un choix pas déconnant de se mettre au COBOL aujourd'hui, quoi.
Et en plus,
cliquer cette phrase.
En plus avec l'IA, franchement. Un développeur HTML JavaScript, maintenant tu tapes sur GPT-4o1, tu lui dis fais-moi un site internet machin qui fait ci ça ça, il te le fait.
Donc dans les zones qui vont être le plus tardivement touchées par la programmation, COBOL est peut-être pas si mal.
Alors que le COBOL c'est tellement des architectures complexes, il va falloir encore des dizaines d'années avant que l'IA elle arrive à comprendre ces architectures. Honnêtement, je pense que ça sera les derniers touchés, quoi. Peut-être que dans 15 ans, il restera plus que des développeurs COBOL, quoi.
Conclusion,
faites du COBOL.
Voilà, exactement.
Si ce sujet vous a intéressé et que vous avez un ordi sous Windows 11, on avait fait une chronique sur pourquoi Windows est un spyware et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour enlever le junk et la merde qui est installée par défaut. Vous allez notamment découvrir des versions alternatives de Windows qui sont conçues par la communauté. Vous allez voir, c'est assez dingue. Et c'était dans cette vidéo.